Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, donc émission préparée comme chaque jour par Perrine Chuquet et Charlotte Méritant. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale consacrée à l'affaire Jack l'Éventreur. Alors vous allez vous dire, encore une émission sur Jack l'Éventreur. Bah, c'est vrai que ça fait 128 ans que le mystère existe, 128 ans que le monde entier est en échec et que des générations, on peut le dire, d'auteurs, sans parler des auteurs de fiction, ça, on les abordera dans le cours de cette émission, mais ça fait donc 128 ans que des tas de gens, quasiment tous les, d'abord tous les 10-15 ans, puis tous les 10 ans, puis actuellement c'est pratiquement tous les ans, disent « j'ai trouvé l'identité de Jack l'Éventreur ». Alors, c'est pas une raison pour se moquer de ces gens. Il faut admirer d'abord, je trouve, leur ténacité. Et dans cette affaire qui a donné lieu, comme je le disais, à des centaines de livres, de films, de cinéma, de télévision, et c'est contre-enquête en question, bah, il y a un livre qui vient de paraître la semaine dernière en France. C'est le livre d'un Anglais, Russell Edwards, « Jack l'Éventreur démasqué », préfacé par Maître Emmanuel Pierrac, un avocat qui est d'ailleurs dont le nom est familier aux auditeurs de l'heure du crime. Et le livre vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Alors, on va passer en revue les arguments de Monsieur Russell Edwards. On va en dire un mot tout de suite avec lui, parce que Charlotte Méritant s'est rendue la semaine dernière au musée du barreau de Paris, rue du Séjour du Roi, pas loin de l'église Saint-Eustache, où avait lieu la conférence de presse de lancement de ce livre. Écoutez donc Monsieur Edwards répondre aux questions de Charlotte Méritant. Première question, évidemment, c'était comment en est-il venu à s'intéresser à cette fameuse pièce de tissu, ce châle, cette robe achetée dans une vente aux enchères en 2007 et dont l'authenticité est loin d'être établie. On verra ça tout à l'heure. Mais écoutez d'abord les explications de Russell Edwards.
La raison pour laquelle j'ai fini par acheter le châle, c'était la présence de ce motif, la marguerite de la Saint-Michel. Ce sont de petites fleurs qui éclosent en septembre chaque année. Et puis je me suis demandé, qu'est-ce que la Saint-Michel ? Eh bien, c'est une fête chrétienne et orthodoxe. Elle est célébrée à deux dates précises, le 29 septembre et le 8 novembre. La nuit du 29 septembre, l'éventreur, Kominski, est parti à la recherche d'une victime. À 1h du matin, le 30, la première victime est retrouvée morte. 45 minutes plus tard, on retrouve la deuxième victime. Le 8 novembre, il part à la recherche de sa dernière victime et on la retrouve le matin du 9. Donc ça correspond parfaitement aux dates exactes de 3 des 5 meurtres de l'éventreur.
Les propos de Monsieur Russell Edwards ont été traduits par notre ami Germain Sastre, qui est journaliste dans l'équipe de Julien Courbet. Donc, ça peut vous arriver. Bonjour Charlotte Méritant.
Bonjour Jacques.
Alors, un mot sur ce châle, parce que vous l'avez vu, vous, ce châle, fameux châle.
Oui, exactement. Il était exposé lors de la conférence de presse. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il est entouré de plaques de verre. On ne peut plus le toucher comme autrefois, mais on pouvait très bien le voir. Donc, il est très grand. Il y a une moitié qui est marron, une autre moitié bleue. Et sur cette moitié bleue, il y a ces fameuses petites fleurs que...
fameuses marguerites de la Saint-Michel dont parle Russell Edwards.
Exactement, oui.
Alors lui, donc, c'est très important pour lui, parce que, en quelque sorte, et on y reviendra évidemment en détail tout à l'heure, il dit, ce châle, ça n'était pas un vêtement porté par la victime dont vous allez me rappeler le nom.
Catherine Edose.
Catherine Edose, merci. Mais c'est un objet qui a été apporté sur la scène du crime.
Oui.
Par Jack l'Éventreur lui-même, en quelque sorte, une sorte de signal pour annoncer ses prochains crimes.
Oui, exactement. Russell Edwards estime que Kosminski a donné un signe aux enquêteurs en laissant ce châle parce qu'il prenait peut-être un petit peu trop confiance en lui et qu'il venait un petit peu. Il voulait provoquer
les
enquêteurs.
Voilà. Oui. Alors, bonjour Maître Emmanuel Pierrin.
Bonjour Jacques Pradel.
Vous êtes l'avocat dont je parlais tout à l'heure, préfet, d'abord directeur du musée, donc du barreau, et ce qui explique que la conférence de presse avait lieu dans vos locaux. Vous êtes donc le préfacier de ce livre. Près de vous, Stéphane Bourgoin, que je salue, à qui, bonjour.
Bonjour Jacques.
À qui on va donner longuement la parole tout à l'heure. C'est le spécialiste incontesté à la fois des tueurs en série dans le monde, mais il a consacré un livre qui est une somme, qui est, en ce qui me concerne, une sorte de livre de chevet d'ailleurs sur l'affaire de Jack l'Éventreur, le livre rouge de Jack l'Éventreur. Mais d'abord, Emmanuel Pierrat, qu'est-ce qui vous a amené à... Parce que une chose est de dire, tiens, bon, voilà, quelqu'un d'intéressant, préfacer le livre, c'est presque adhérer aux idées de l'auteur.
Non, c'est adhérer surtout à la passion de l'auteur pour Jack l'Éventreur, qui est quand même une affaire tellement sensationnelle, tellement extraordinaire que 128 ans plus tard, 128. Elle nous fascine encore. Ouais. Et elle fascine le monde entier, elle fascine l'Angleterre et elle fascine au-delà de l'Angleterre. Mmh. Et puis la façon dont Russell Edwards raconte dans son livre sa quête du châle, sa quête ensuite des éventuels descendants du suspect, ouais. La façon dont il leur arrache en quelque sorte, mais d'ailleurs ils sont assez complaisants pour se donner des tests ADN ou en tout cas des échantillons de salive, oui. Ce que je trouve très anglais d'ailleurs, des gens qui revendiquent et qui disent ah, je serais ravi d'être le descendant de Jack l'Éventreur, ce qui est une chose assez curieuse, oui. Mais très très, oui. Anglaise, oui. La façon dont il raconte tout ça, dont il se promène dans Londres, dans Whitechapel, ce, oui. Quartier donc très 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 populaire, hein, qui était miséreux au 19e siècle, au moment où Jack l'Éventreur y sévissait, et puis qui est toujours un quartier d'immigration, de métissage, de multiculturalisme. Il y a un grand romantisme qui me rappelle aussi bien, on va dire avec toute proportion littéraire gardée, mais Oliver Twist, Jack London, les grands écrivains qui se sont penchés sur ce quartier. Voilà. Donc j'aime beaucoup la façon de Russell Edwards, qui est un amateur, et non pas un flic professionnel, non pas un spécialiste de l'ADN, mais quelqu'un qui s'est pris de passion, comme des tas d'Anglais, pour un éventrologue, s'est pris de passion pour cette histoire et s'est lancé, parce qu'il habitait dans ce quartier, sur la piste de Jack l'Éventreur, après tant d'enquêtes.
Voilà, mais il va beaucoup plus loin dans son livre, on y reviendra tout à l'heure, il dit maintenant on peut fermer le dossier, l'affaire est faite, vous voulez le nom de Jack l'Éventreur, c'est monsieur Aaron Kominski, qui était un coiffeur donc à l'époque, etc. D'un mot, tout de suite, Stéphane Bourgoin, on va dire une chose, c'est que dans cet automne 1888, il n'y avait pas de brume à Londres, hein, parce qu'on imagine toujours
des
ruelles de Whitechapel dans la brume avec l'ombre du criminel.
Il n'y avait pas de lampadaire qu'on illustre toujours avec des lampadaires le halo lumineux. Et la plupart des crimes ont été commis aussi une fois que le jour était levé.
Alors, on va revenir avec vous. C'est pour ça que je disais, vous êtes un grand spécialiste de ce dossier. On compte sur vous pour remettre toutes nos pendules à l'heure, y compris sur les hypothèses évidemment concernant l'identité de Jack l'Éventreur. On va faire une pause et vous l'aurez compris avec la voix que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas vous lire mon récit habituel, mais on va écouter ensemble, une fois n'est pas coutume en ce qui me concerne, le récit que j'avais fait dans une émission spéciale il y a quelques temps sur RTL, mais qui a le mérite au moins de remettre les choses en ordre et de rappeler à tout le monde les circonstances dans lesquelles cette horrible série de crimes dont on parle encore aujourd'hui s'est déroulée.
L'heure du crime sur RTL.
Nous sommes à Whitechapel, le quartier le plus déshérité de la capitale britannique. Un univers à la Dickens, un véritable enfer social où s'entassent près de 80 000 personnes qui vivent la plupart dans des taudis. La grande famine qui a fait en Irlande 1,5 million de morts dans les années précédentes a attiré à Londres une foule d'immigrants en quête de travail. Il y a donc les Irlandais, mais il y a aussi des ouvriers allemands, des Français, des Juifs russes fuyant les pogroms tsaristes, des Hindous, tous attirés par le mirage de la révolution industrielle, promesse d'emploi, espoir de mieux-être et de mieux vivre. La réalité est tout autre. Les salaires sont misérables, la violence quotidienne. On dénombre à l'époque dans ce quartier de Whitechapel 200 asiles et 62 maisons closes. Scotland Yard, qui effectue des rondes régulières dans ces bas-fonds, estime que près de 2000 ouvrières n'ont d'autre choix que de se livrer à la prostitution nocturne pour survivre, pour échapper à la plus extrême des misères. dévorées par l'alcool, par la drogue. La plupart de ces femmes tombent sous l'emprise de proxénètes, de gangs. Le quartier détient le triste record des crimes de sang. Et c'est dans cette enclave d'à peine 2 km² que va surgir un prédateur exceptionnel, un tueur en série, qui va assassiner en moins de 2 mois 5 malheureuses prostituées dans des conditions affreuses de sadisme et de perversité. La découverte du premier meurtre remonte au 31 août 1888. Ce jour-là, une femme est retrouvée sauvagement mutilée dans Bucks Row. Elle s'appelle Marianne Nichols. Elle a 43 ans, séparée de son mari, dépressive, alcoolique. Elle se livre à la prostitution occasionnelle sous le nom de Polly. Et cela pour nourrir les 5 enfants dont elle a la charge. Son corps est découvert par 2 passants vers 3h45 du matin en pleine rue, à peine dissimulé sous une bâche, la gorge tranchée, la langue lacérée, l'abdomen et les organes génitaux entaillés. Le Times consacrera un article très détaillé à ce meurtre, publiant même le rapport d'autopsie du médecin légiste sans épargner aucun détail à ses lecteurs. Et même les journaux d'opposition évoqueront l'affaire, bien sûr pour dénoncer les conditions de vie dans l'East End et à Whitechapel. L'émotion est considérable. 8 jours plus tard, le samedi 8 septembre, vers 6h du matin, dans le même quartier, John Davis, un voiturier partant au travail, sort de son logement du 29 Hanbury Street. Il découvre un corps inanimé le long d'une palissade. Il appelle à l'aide, mais il est trop tard. La victime est une femme au visage tuméfié. Elle a été égorgée et presque décapitée. Le spectacle est horrible. La mise en scène, macabre. Certains des organes de la malheureuse ont été disposés, enroulés autour de son épaule droite. Elle s'appelle Annie Chapman. Elle a 47 ans. On la connaît sous son nom de guerre de prostituée, Dark Annie. Dark, à cause de ses cheveux noirs. Séparée, alcoolique, 2 enfants, son histoire ressemble tragiquement à celle de la première victime. Sur les scènes du crime, les policiers vont trouver un indice vraisemblablement laissé volontairement par l'assassin. Un morceau d'enveloppe d'une lettre postée le 28 août, sur lequel on peut distinguer une initiale, la lettre M, et le début d'une adresse postale. Et quelques heures plus tard, un boucher juif sera arrêté par la police à cause d'un fragment de cuir, cette fois retrouvé également sur les lieux, mais il sera rapidement mis hors de cause, échappant de peu cependant aux habitants du quartier qui veulent le lyncher au moment de son arrestation. 17 septembre, premier coup de théâtre. Une lettre parvient à Scotland Yard et elle dit ceci, je cite, « Cher patron, donc maintenant ils disent que je suis juif. Quand apprendront-ils? Vous et moi connaissons la vérité. Attrapez-moi si vous pouvez. » Et en dessous du texte, une signature, « Jack the Ripper ». Jack l'éventreur. Jusqu'alors, les journalistes parlaient de la terreur rouge du quartier de Whitechapel. Désormais, l'assassin a un nom, et quel nom? Qui peut bien être le cher patron? Pourquoi le tueur a-t-il lancé ce défi? Attrapez-moi si vous pouvez. Les hypothèses les plus fantaisistes sont développées à longueur de manchette dans toute la presse. Le public s'interroge. Qui sera la prochaine victime? Il ne faudra pas attendre très longtemps pour le savoir. Dans la nuit du 30 septembre, vers 1h du matin, un camelot, vendeur de bijoux bon marché, remonte avec son attelage Berner Street, toujours dans le quartier de Whitechapel. Soudain, au niveau d'une cour, son cheval se cabre, l'homme descend du véhicule, craque une allumette pour voir ce qui a bien pu effrayer son animal. Il découvre allongé sur le sol le corps d'une femme qui sent l'alcool à plein nez. Il se rend tout près de là, au club des travailleurs socialistes, où sont réunis de nombreux ouvriers qui viennent de participer à un débat. On entend des airs de polka, parce que la soirée se termine toujours en musique. Le camelot fait irruption dans la salle pour demander de l'aide. Il en ressort avec 2 personnes qui ne peuvent que constater, comme lui, que la femme a été égorgée. On pense immédiatement à Jack l'éventreur, car là encore, il y a une mise en scène sinistre. Un petit bouquet de géranium et de fougères est épinglé sur le manteau de la victime. Sa robe est déboutonnée vers le haut. Un bonnet a été disposé près de sa tête, sur le sol. Le médecin légiste, appelé aussitôt par Scotland Yard, constatera que le crime remonte à peine à une dizaine de minutes. L'assassin a certainement été dérangé par l'arrivée de la carriole. Il a dû s'enfuir avant de terminer sa mise en scène. Les blessures à la gorge montrent qu'il avait l'intention de la décapiter, mais il n'en a pas eu le temps. La nouvelle victime se nomme Elizabeth Stride, surnommée Long Liz dans le quartier à cause de sa taille. Long Liz est aussi une prostituée, elle avait 45 ans. Elle est la troisième proie de Jack l'Éventreur. Cette nuit-là, le tueur frappera deux fois. En effet, moins d'une heure après la découverte du meurtre de Long Liz, un agent de police qui effectue sa ronde près de Meter Square découvre un nouveau cadavre de femme. Elle s'appelle Catherine Eddowes. Il s'agit encore d'une prostituée. Le spectacle dépasse cette fois en horreur tous les autres meurtres. L'assassin semble avoir perdu tout contrôle dans l'exécution de son acte. Posture grotesque de la victime, ventre ouvert, organes disposés sur l'épaule, le visage est marqué de deux estafilades formant la lettre V renversée sous chaque paupière. Il manque un rein qui a été emporté. Quelques mètres plus loin, les policiers relèveront une inscription antisémite tracée à la craie par le tueur. Elle sera vite effacée avant même d'être photographiée pour éviter un pogrom qui aurait mis le quartier à feu et à sang. Et les enquêteurs y voient la volonté du criminel de déclencher une véritable émeute qui aurait donné encore plus de retentissement à l'affaire et qui aurait souligné l'incapacité des policiers et donc de leur patron d'arrêter le tueur de femmes. La presse du lendemain révèle que l'agence centrale de presse, une sorte d'AFP locale, avait reçu une lettre signée aussi de Jack l'Éventreur trois jours auparavant. Le texte très bref disait « Cher patron, encore une fois, j'adore mon travail et je veux recommencer encore. Tu entendras bientôt parler de moi avec mes petits jeux amusants. » Le 7 novembre, une nouvelle lettre parvient à la police. On peut lire en haut du document des initiales DSS. Et ces initiales correspondent au nom de l'officier de Scotland Yard chargé d'analyser les lettres du tueur. Il s'agit de Donald D. Sutherland S. Swanson, encore un S. Comment Jack l'Éventreur connaissait-il ce nom ? Mystère. Le contenu de la lettre, toujours adressée au cher patron, est en tout cas très clair. « Je pense, écrit le tueur, que mon prochain travail sera de te faire renvoyer. Et dès que possible, je deviendrai un membre de la force. Je pourrai bientôt te demander des comptes. » Jack l'Éventreur, par ces mots, déclare donc officiellement la guerre au chef de Scotland Yard. Deux jours plus tard, le 9 novembre, on découvre dans une chambre minable du 13 Miller's Court le cadavre horriblement mutilé de la dernière victime de la série. Elle est irlandaise, elle s'appelle Mary Jane Kelly, elle a 24 ans, ses clients la surnomment Ginger. Elle est découverte par son logeur venu réclamer des loyers impayés vers 11h du matin. La mise en scène dépasse tous les autres meurtres en horreur. Le cadavre est éviscéré, les seins ont été découpés, les cuisses et le visage lacérés, le cœur a disparu. Le médecin légiste dira dans son rapport d'autopsie que le meurtrier devait avoir de solides notions de médecine légale ou d'anatomie humaine ou animale. Ginger sera la dernière victime de Jack l'Éventreur. Peu de temps après, à la fin de ce mois de novembre 1888, le chef de Scotland Yard, Sir Charles Warren, démissionnera. L'enquête n'aboutira pas. Le dossier sera rapidement, trop rapidement, classé. L'énigme n'a jamais été résolue. Elle est maintenant devenue un véritable mythe. Et c'est une édition de l'heure du crime consacrée à nouveau au mystère Jack l'Éventreur à l'occasion, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la publication en France du livre de Russell Edwards, Jack l'Éventreur démasqué, avec une préface de Maître Emmanuel Pierrat, qui est l'un de mes invités. Le livre est paru aux éditions de l'Archipel. Alors je vous invite évidemment tous à lire les arguments développés dans ce livre par Russell Edwards, très sérieusement dit « Mais moi j'ai une pièce à conviction, j'ai passé cette pièce à conviction au tamis des dernières recherches en génétique et j'ai obtenu d'abord la constatation qu'il y avait bien sur cette pièce de tissu l'ADN de la victime et qu'en prime, il y avait aussi l'ADN de celui qui, déjà à l'époque, avait été soupçonné par Scotland Yard, un certain Aaron Kominski. Alors, avant d'aller plus loin, on va revenir avec vous, s'il vous plaît, Stéphane Bourgoin, puisque je citais les livres, je cite également le vôtre, le livre rouge de Jack l'Éventreur, qui est une somme vraiment consacrée à l'affaire qu'on peut se procurer chez Point Poche, hein, qui a été réédité en 2014. Est-ce que vous pouvez nous faire la liste un peu des candidats sérieux à l'identité de Jack l'Éventreur, à travers les âges ?
Alors, il y a trois suspects contemporains, enfin, qui ont été désignés dans les années suivantes par les trois plus grands patrons de la police, de la Metropolitan Police et de Scotland Yard à l'époque des crimes.
Oui.
Donc Donald Swanson, Melvin McNaughton et Sir Robert Anderson, qui désigne en premier un Russe immigré, Mikhail Ostrog, en second Montagu John Druitt, qui était un notaire qui a fini par se suicider peu de temps après le dernier meurtre de Jack l'Éventreur, et un troisième suspect qui, pour moi, bien que dans mon livre, je sois le seul livre au monde sur Jack l'Éventreur...
Vous ne désignez personne.
Où je ne désigne aucun coupable.
L'objectivité absolue. Oui.
Oui, bien que je...
Et vous donnez toutes les pièces au lecteur.
Voilà, et je parle de cette histoire du châle de Catherine Eddowes. Et le troisième suspect, qui pour moi est probablement le plus intéressant, c'est Aaron Kosminski, qui est désigné par Russell Edwards dans le livre qui vient de sortir aux éditions de l'Archipel.
Alors,
je pense que, malgré tout, ce n'est pas lui, Jack l'Éventreur.
Ah bon, d'accord. Ben,
mais c'est le suspect le plus probable.
Bon, alors, il faut dire quand même que, pour revenir au dossier, hein, qui est largement d'ailleurs évoqué par Russell Edwards dans son livre, avec beaucoup
d'objectivité,
hein, pour le coup. Bon. La plupart des enquêteurs de l'époque disent... C'est un fou qui a fait ça. C'est un malade mental. Beaucoup le disent quand même, franchement.
Bon. Beaucoup le disent, mais pour commettre ce type de crime, moi qui ai interrogé maintenant 77 tueurs en série, depuis plus de 30 ans, il faut être quelqu'un de très organisé. Et ça semble être le cas de Jack l'Éventreur. Donc qualifier Jack l'Éventreur de quelqu'un qui est totalement irresponsable de ses actes, qui échappe à 4 voire 5 reprises aux enquêteurs, ça me paraît peu probable. À mon avis, c'est un psychopathe, donc quelqu'un qui souffre de troubles du comportement, mais qui aurait été jugé responsable de ses actes
aujourd'hui,
s'il avait été jugé aujourd'hui.
Oui. Vous en pensez quoi, Emmanuel Maître Pierre?
Que c'est compatible, qu'on peut être à la fois un grand déséquilibré et quelqu'un qui contrôle parfaitement, on va dire, ses pulsions et sa pathologie, sa psychopathologie. D'ailleurs, il y a très peu de gens aujourd'hui devant les cours d'assises qui sont reconnus comme irresponsable au sens psychiatrique. Il faut en faire beaucoup. Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, ou il y a 4 ans peut-être, un garçon qui avait découpé comme ça la tête de sa compagne, qu'il avait posé sur une cheminée, a été considéré comme responsable, c'est-à-dire capable d'être jugé. Donc il faut aller très très loin.
Faut
Jack l'Éventreur est crédible, on va dire, en étant déséquilibré et en commettant ce type d'acte.
Et ce que je voulais dire, en fait, Stéphane Bourgoin, c'est que, et là aussi, peut-être vous allez me démentir, mais vous connaissez mieux le dossier que moi. Dans vos trois candidats, entre guillemets, les plus sérieux, ils ont soit l'un est parti aux États-Unis, les crimes se sont arrêtés, l'autre a été interné, les crimes se sont arrêtés. Enfin bref, il y a un lien quand même direct avec des gens qui... fou, allié ou pas, en tout cas avait un vrai problème
sexuel. Et il y a un quatrième, suspect qui était un médecin d'origine américaine, Sir Francis Tumblety, qui collectionnait des organes sexuels féminins dans des bocaux et qui a été suspecté et condamné pour des agressions très violentes sur des femmes.
Alors, une pause tout de suite et on va retrouver Charlotte Méritant qui, comme on l'a dit au début de l'émission, a assisté à cette conférence de presse, a interviewé Russell Edwards, qu'on va entendre à nouveau bien sûr. Et puis on va vous donner quelques petites précisions avec Charlotte sur le fil sur lequel a tiré l'auteur anglais pour arriver à ce personnage du coiffeur polonais.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Alors, Charlotte Méritant est toujours avec nous. Vous étiez donc au musée du Barreau lors de cette conférence de presse la semaine dernière. Vous avez rencontré Russell Edwards. En un mot, on l'a dit, la personne qu'il désigne est une personne qui était déjà désignée à l'époque par les enquêteurs, mais lui ne le savait pas.
Alors en fait, il l'a su assez rapidement puisqu'il a rencontré le conservateur du musée de Scotland Yard qui s'appelle Alan McCormack. Et cet homme-là lui a dit que Scotland Yard savait depuis toujours l'identité de Jack l'Éventreur, que c'était Aaron Kosminski, mais qu'il manquait de preuves pour arrêter ce suspect. En fait, ils avaient un élément, c'est qu'il y avait eu un témoin à l'époque qui s'appelle Israel Schwartz et qui dit avoir vu un homme attaquer Elizabeth Stride, qui était donc la troisième victime de Jack l'Éventreur. Mais cet homme, Israel Schwartz, a refusé de témoigner parce qu'il était juif, comme Kosminski. Et donc,
il n'aurait pas voulu dénoncer un juif.
Exactement, oui.
Et il faut dire aussi qu'on est dans cette atmosphère de pogroms incessants, d'antisémitisme et d'émeutes. La plupart des juifs qui se trouvent à Londres à cette époque-là fuient les pogroms d'Europe de l'Est, mais il y a des troubles également, et ce fameux graffiti que j'évoquais dans le récit.
Oui, exactement. En fait.
Donc voilà, il s'est pris aussi un peu pour un enquêteur, bien qu'il s'en défende. Il est allé sur le terrain,
oui,
avec un chronomètre à la main.
Il a refait le parcours de Jack l'Éventreur, et puis il a constaté que Aaron Kosminski vivait près et qu'en effet il avait eu le temps entre les meurtres de rentrer chez lui. Après, il dit qu'il ne sait pas comment il a pu s'échapper. Est-ce que c'était par les catacombes? Russell Edwards affirme qu'il y a des catacombes sous Whitechapel. Est-ce que c'était par les toits, ou est-ce qu'il avait trouvé un moyen pour se cacher qu'on ignore? Ça, il ne le sait pas.
Alors, à ce propos, je voyais réagir Stéphane Bourgoin et Emmanuel Pierrat. Vous avez lu le livre d'Edwards, évidemment. Qu'est-ce qui vous paraît pas crédible dans ses arguments sur la culpabilité de ce coiffeur juif d'origine polonaise?
Alors, sur la culpabilité éventuelle d'Aaron Kosminski, je n'ai absolument aucune objection.
D'accord.
Sauf qu'il était délirant, qu'il n'a agressé que des femmes de son entourage, de sa propre famille.
Et qui est dénoncé par sa famille, et c'est comme ça qu'il est mort à l'asile.
Voilà, qu'il a été interné, voilà. Qu'il est resté enfermé dans un asile psychiatrique jusqu'en 1919.
Et force est de constater qu'à partir du moment où il a été dans cet asile, les meurtres ont cessé.
Oui, mais il est quand même resté 3 ans après les crimes, le crime ultime du 9 novembre, en liberté, avant d'être interné dans un asile psychiatrique. Donc il aurait pu
continuer.
Il
n'a pas été interné vraiment à l'issue
de... Non, pas du tout. Alors, mes objections. Premièrement, ce châle, qui est peut-être aussi un chemin de table, puisqu'il mesure 2,50 m de long, a été analysé par la plus grande galerie d'art Sotheby, qui vend aux enchères un peu comme Drouot, qui indique que sa provenance est très certainement postérieure de 12 ans au crime de Jacques l'Éventreur. Et donc d'origine édouardienne et pas victorienne. Donc
alors
aux entours...
Edwards n'est absolument pas d'accord avec ça.
Oui.
C'est toute une partie du livre. Non, mais qu'on peut rappeler quand même, parce qu'on est là quand même pour dire les choses comme il le développe dans son livre, Emmanuel Pierrat.
C'est une grande partie de l'enquête, oui.
Lui, il a fait une enquête pour savoir ces fameux motifs à fleurs étaient très importants dans son enquête.
Il y a deux choses importantes dans l'enquête d'Edwards. Il y a des choses que Stéphane Bourgoin a déjà dites, mais qui sont importantes parce que beaucoup des éventrologues ou des spécialistes avaient négligé cette piste, qui était de considérer que ce châle trouvé sur les lieux d'un crime n'appartenait pas finalement à une des prostituées, à une des victimes, mais peut-être appartenait à l'assassin. Et ça change tout. C'est-à-dire que c'est Russell Edwards part de ce postulat, c'est-à-dire que selon lequel la police, en quelque sorte, s'est trompée. Oui. Ce châle a été délaissé parce qu'on...
Il analyse les teintures. Voilà. On sait que si cette femme avait porté sous la pluie ce vêtement, il aurait été détruit, etc.
Il considère surtout que la qualité du tissu, que la richesse, en quelque sorte, ou le coût de cet objet est incompatible avec le statut de la prostituée de la victime. Et que donc ça appartient forcément à l'assassin.
On laisse une chance à Stéphane Bourgoin de réagir tout de suite à ce que vous avez dit. dit avant que vous alliez plus loin.
Alors, on trouve une partie du tablier de la victime, Catherine Eddowes, non loin de la scène de crime, avec dessus des matières fécales, du sang, et ça a été probablement utilisé par l'assassin, Jacques Léventreur, pour s'essuyer et essuyer son arme éventuellement. Oui. Sur l'analyse ADN, de ce châle.
Avant l'analyse ADN, il y a toute l'enquête qui consiste à savoir quelle est l'origine de ce châle et de ses motifs.
D'accord.
Et là, c'est passionnant parce que Russell Edwards part sur cette piste qui est de l'immigration, juive d'Europe de l'Est.
Vers les villes russes,
vers Saint-Pétersbourg, quelque part comme le nord-est de la Pologne. Ouais. Donc,
vient Aaron Kosminski.
Exactement. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant parce que ça permet aussi de reconstituer la population de ce quartier, comment ce quartier s'est constitué, comment il est fait de gens de campagne, de paysans anglais qui ont fui la campagne pour venir se réfugier en ville, sont devenus dans ce quartier miséreux, etc. Donc tout cela est vraiment passionnant. Moi, je trouve ça très convaincant. Après, je ne suis pas spécialiste de l'ADN autre partie.
Et l'ADN, on va y venir dans un instant. Ça va vous faire du bien. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, juste quelque chose. Quand Russell Edwards dit qu'il va découvrir le nom d'Aaron Kosminski. Aaron Kosminski est désigné dès le début du XXe siècle dans plusieurs ouvrages.
Il dit pas qu'il va le découvrir, il dit que parmi les suspects, il pense que c'est celui vers lequel il faut un moment se diriger. Donc,
il est déjà désigné dans des livres à l'époque.
Il ne se glorifie pas de l'avoir fait, il dit au contraire, ça colle complètement, et moi, le mérite que j'ai, c'est que maintenant on peut clore le dossier parce que j'ai trouvé l'ADN du gars. Voilà, en gros.
Patricia Cornwell l'avait déjà prétendu aussi il y a quelques années, avec l'ADN aussi.
Bon, attendez, parce que là, le temps, c'est infernal, le temps passe, mais tant pis, on va prendre le temps d'écouter à nouveau Russell Edwards à votre micro, Charlotte, puisque vous lui avez évidemment posé la question, comment répond-il à cette objection principale, comment est-il possible qu'en 128 ans, 128 ans au moins, le châle n'ait pas été contaminé par les traces ADN de toutes les personnes qui l'ont touché depuis? Écoutez sa réponse.
Ils disent que je suis un détective de comptoir, et c'est vrai, je ne suis pas un professionnel. Mais c'est juste que je me suis pris de passion pour cette histoire. J'avais besoin de résoudre cette énigme. Mais les scientifiques avec qui j'ai travaillé, eux, sont des professionnels, avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Quand on achète une écharpe dans un magasin, qui sait combien de personnes ont touché sa surface? Au début, Yari m'a dit que je ne pourrais jamais obtenir un extrait d'ADN exploitable sur la surface, parce qu'il serait forcément contaminé. Alors comment faire? Yari, qui est un homme très intelligent, a trouvé un moyen, une nouvelle technique qui fonctionne un peu comme un aspirateur. Et il a réussi à obtenir quelque chose. C'est là que se trouve le génie de cet homme. Il a créé son propre matériel, je l'ai vu, j'étais là. Comme ça, ça a l'air très simple, mais c'est en fait assez révolutionnaire par rapport aux techniques d'analyse ADN qu'on utilise aujourd'hui.
Les propos donc traduits et pris dans la voix de Germain Sastre. Voilà ce que je voulais dire, qu'on vient d'entendre à l'instant. On va se retrouver avec tout le monde, tous mes invités, et puis l'invité principal, évidemment, aujourd'hui, Jack the Ripper, Jack l'Éventreur.
L'heure du crime sur RTL.
Et donc, nous revenons sur l'affaire Jack l'Éventreur, à l'occasion de la publication de ce livre et des hypothèses nouvelles, mais qui ne sont pas présentées comme des hypothèses. Emmanuel Pierrin, par Russell Edwards, dit, il est catégorique, lui. Il dit, j'ai fait faire ces analyses avec un généticien dont il parle très longuement, il publie les résultats, et il dit, ces résultats sont fiables, ce que beaucoup, beaucoup de gens démentent, il faut bien le dire.
Oui, considérant que la probabilité est beaucoup plus large, mais moi je suis très attaché quand même à sa thèse, parce que je la trouve littérairement très intéressante, parce qu'il retrace toute l'affaire. Et que
littérairement,
et que ce livre est très haletant.
Il est extrêmement
un page-turner, c'est-à-dire un livre dont on a envie de connaître la fin, et je le trouve très 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 bien, très très, comment dire, entraînant dans sa passion pour découvrir l'identité de l'assassin.
Alors, le problème, Stéphane Bourgoin, des recherches génétiques, c'est que c'est un peu du chinois pour tout le monde, excusez-moi, de le rappeler. lui, il dit, on a trouvé... Alors, tiens, puisque Charlotte disait tout à l'heure, on l'a vu de près, ce châle, on voit des traces de sang.
Oui, on voit des taches blanches. Ouais. Et Russell Edwards dit qu'il pensait au début que c'était de la javel et qu'en faisant analyser ces taches par le généticien, donc avec une technique infrarouge, ouais, ils ont pu déterminer qu'il y avait des taches de sperme et des taches de sang sur, ouais, le châle.
Voilà. Alors c'est en grattant, c'est avec un phénomène d'un système d'aspiration. Je peux pas en dire plus parce que je suis pas un spécialiste, vous non plus d'ailleurs. Mais vous avez un mérite, Stéphane Bourguin. Vous avez comparé tout ce qui a été publié là-dessus sur les recherches.
Oui, parce que ce châle a déjà été analysé par les plus grands généticiens au préalable.
Oui, mais alors il en parle, Edwards,
et
il
2013 en
parle pour des émissions de télévision,
pour des émissions
avec des budgets, objective, oui, avec des budgets limités. Dit-il, non, mais on est obligé de dire les choses comme il les présente. Et il dit, ces recherches ne sont pas allées très loin, et il était clair qu'elles ne pourraient pas donner grand-chose, parce qu'elles ont été faites très superficiellement. Et, or, lui, tout ce qui fait la différence pour lui, c'est que, ces recherches génétiques, il les a fait en profondeur, si on ose dire,
sauf
avec
que
résultat.
Le découvreur de l'ADN sera Alec Jeffreys, et les plus grands experts des laboratoires, à la fois en Angleterre, en Australie et au Canada, ont indiqué que celui qui a fait ses expertises pour Russell Edwards, Lohainen, s'est trompé dans les protocoles. C'est-à-dire que... au lieu d'avoir une chance sur 290 000 d'identifier à peu près, je dis dans ces chiffres-là, en fait, les protocoles correspondent à 99% de la population.
Et donc, il suffirait de refaire des analyses.
Emmanuel Pira, oui, voilà.
Il suffirait de réutiliser un bon protocole pour arriver éventuellement à une conclusion.
Et Lohainen a été obligé de reconnaître, interviewé par la presse anglaise, à l'époque, fin 2014, début 2015, qu'il s'était effectivement trompé.
D'accord.
Cela dit, ça n'enlève rien à la crédibilité du suspect et à la qualité littéraire du livre qui est prodigieuse.
Et quand même, à quelque chose d'autre qui me paraît beaucoup plus troublant encore, c'est d'avoir trouvé sur ce même objet deux ADN, un féminin qui correspondrait à la lignée, aux descendants de la victime, et un autre ADN, certes mitochondrial, c'est-à-dire une partie seulement de l'ADN, pourrait être celui de, mais partagé par d'autres évidemment, de l'assassin. C'est quand même assez troublant, ça.
Il y a quand même une enquête assez poussée. Il y a des années quand même d'enquête faite par Russell Edwards à partir de quand même d'un objet qui avait été largement négligé, c'est-à-dire mis de côté, considérant que l'affaire était fermée, close en quelque sorte par Scotland Yard et qu'il n'y avait plus rien à chercher.
Alors. Quand on dit qu'il n'a pas été ou très peu manipulé...
Ah, il dit même dans son livre qu'il n'a jamais été lavé et que c'est une chance extraordinaire.
Alors, cette histoire du châle...
Personne n'a jamais lavé ce châle.
...date depuis des décennies. Et dans la presse anglaise, dès les années 30, moi je possède tous ces journaux, jusqu'à maintenant, on voit d'innombrables photos de ce policier, Amos Simpson, ou de ses descendants qui manipulent sans aucune précaution le châle.
Mais personne n'a passé la machine à laver. C'est ça qu'il raconte. Et il dit, ça c'est très important parce que là, ça aurait tout détruit. Bon, alors, voilà, point de suspens. De toute façon, il y a tous les ingrédients, encore une fois, dans ce livre, pour relancer l'intérêt sur l'affaire. Et je me tourne une dernière fois vers vous, Charlotte Méritant, puisque vous étiez là. C'est un homme qui n'est pas gêné du tout aux entournures, qui est très bien dans sa peau.
Il est parfaitement sûr de lui, il est 100% sûr d'avoir démasqué Jack l'Éventreur. Et d'ailleurs, ce qu'il demande à Scotland Yard aujourd'hui, c'est de fermer le dossier, de coopérer.
Tout simplement de fermer le dossier, voilà. Et alors là, c'est maintenant une autre théorie du complot, il y a peut-être un livre à faire. D'ailleurs, je me tourne vers Emmanuel Pira et Stéphane Bourguin, il y a peut-être un bouquin qui manque, tout ça. La théorie du complot, les ripérologues, les éventrologues même feraient tout ce qu'il faut pour qu'on ne classe jamais le dossier, parce que c'est une trop belle affaire.
En fait, le dossier a été classé depuis très très longtemps.
Classé par Scotland Yard,
Oui, voilà. Mais enfin,
considérant qu'il y avait de bon sens pour que l'assassin soit décédé. Quand
Plus loin, on dit, moi je veux bien qu'on le classe, mais classons-le et des noms. Et voilà,
il le donne. La théorie du complot a été évoquée très longuement.
Ce qui est certain, et c'est la thèse de Stéphane Bourgoin, c'est que tout ce qui fait le sel de l'affaire, c'est qu'elle ne soit pas résolue. Donc,
voilà, c'est ce que je vous dis aussi.
Et je trouve, en ce sens, que Russell Edwards a raison de vouloir un petit peu clore l'affaire, malgré tout, et d'enlever un petit peu de mystère et d'arriver à une
conclusion. Surtout avec son dernier livre.
Donc Stéphane Bourgoin est pour la légende éternelle de Jack l'Éventreur.
Alors, je rappelle, si vous voulez aller plus loin, on va vous mettre tout ça, évidemment, sur le site rtl.fr, avec d'ailleurs une interview du patron du laboratoire de biologie de l'IRCGN, Monsieur Pham Wai, qui était notre invité il y a quelques jours. On l'avait interrogé là-dessus, mais on n'a pas eu le temps de passer cet élément. Vous pouvez le retrouver sur le site rtl.fr à la page de l'heure du crime. Et les livres, évidemment, Jack l'Éventreur démasqué, le plus récent, donc préfacé par Manuel Pira à l'Archipel, et toujours le livre rouge de Jack l'Éventreur de Stéphane Bourgoin chez Point Poche. L'émission est maintenant officiellement terminée.